explorer de nouveaux mondes étranges.
Un arbre très commun ici, qui pousse très très bien, qu'on appelle le lilas de Perse. Il est effectivement d'Iran, et au printemps, il donne des fleurs mauves qui sentent très très bon, donc le terme de lilas de Perse, ça lui va bien.
Le temps d'un bivouac.
Écouter Francis Allais parler des arbres de son jardin, c'est déjà faire un voyage. Pas très loin de ce lilas de Perse, dont il aime sentir l'odeur, il y a un ginkgo biloba, encore appelé arbre aux 40 écus. Celui-ci a pour berceau la Chine. Un peu plus loin, on aperçoit un laurier de Californie. Dans ce jardin, quelques pas suffisent pour passer d'un continent à l'autre au gré des plantes que l'on croise. Francis Allais est botaniste, grand spécialiste des arbres et des forêts tropicales. Il a passé sa vie à arpenter les dernières forêts primaires de la planète. Il est même le co-inventeur du radeau des cimes, grâce auquel il a pu marcher sur la canopée avec des biologistes de tous horizons pour étudier l'extraordinaire biodiversité qui peuple le feuillage des grands arbres tropicaux. À 80 ans passés, Francis Allais voyage toujours et continue de poser un regard curieux et émerveillé sur le monde végétal en général et sur les grands arbres en particulier. Pour notre escapade du vendredi, c'est avec un immense plaisir que je suis allé lui rendre visite à Montpellier, où il vit. Notre balade nous mènera jusque dans une forêt qui borde les rives du Lez, près de Montpellier, mais elle commence au pied de chez lui, dans son jardin. C'est là que nous nous sommes retrouvés. Quoi de mieux pour entamer la conversation avec un botaniste?
J'aime bien parce que c'est pas trop bien tenu, voilà. J'aime pas les jardins parfaits.
Ah, il a un petit côté sauvage.
Oui, oui.
Ce jardin.
Ah, ben on va faire une visite.
Le temps d'un bivouac en escapade, Daniel Fievé.
Moi, je trouve ça très charmant, ces vieux jardins du midi. Un beau cèdre.
Gigantesque cèdre.
Comme le chêne qui est là, ils ont 100 ans. Attendez, je vais vous montrer une odeur incroyable.
Ah oui.
Voyons si vous...
Je peux l'arracher la
feuille? Oui, mais attendez, pas un peu plus. Non.
Ça a l'aspect un peu d'un laurier ou je suis complètement à côté de la plaque?
Non, c'est un laurier. Non, il faut l'écraser complètement. Attention, c'est puissant. Hein.
C'est vrai, qu'est-ce que vous me faites respirer? Oula! Ah oui, oh la vache.
Oui, hein. Ah c'est oui. Un laurier, mais c'est un laurier de Californie. Il y a des gens qui ne supportent pas ça.
Je peux comprendre, moi ça me fait penser à des odeurs un peu de... Pas d'antimite, enfin de produits un peu répulsifs.
Oui, c'est exact. Oui. Ça sert évidemment à dissuader les prédateurs.
Ah ben voilà, c'est les défenses de l'arbre.
Oui, c'est les défenses de l'arbre.
Ça c'est une chose que vous avez pu raconter notamment dans le film de Luc Jacquet. Vivre immobile pour un arbre, c'est toute une histoire, c'est tout un défi.
Immobile et vous êtes totalement comestible. Totalement. Donc il faut trouver des solutions intelligentes. On ne peut pas se sauver et on ne peut pas se cacher. La solution qu'ils ont trouvée, c'est des produits chimiques parfois très toxiques. Là, c'est pas toxique.
En tout cas, ça n'est pas pour nous, mais peut-être que...
Pour les insectes de Californie, oui, c'est possible.
C'est vrai que c'est une odeur très entêtante. Hein.
Ah, venez voir, il y a un arbre très très curieux. Le truc là. Un arbre du Japon, Sophora japonica.
Et alors, il a les troncs et les branches tout entortillés, plein de virages. C'est très curieux comme arbre.
Ça se touche pour se souder. Et vous remarquez qu'il pousse vers le bas.
Ah oui. Parmi les choses surprenantes que vous avez pu observer lors de vos nombreux voyages, il y a la timidité des arbres. Certains arbres font preuve de timidité.
Ils ne sont pas tous timides, mais il y en a qui le sont. Alors vous avez ces gros arbres côte à côte, les couronnes pourraient se toucher. Ouais. Et ben elles se débrouillent pour ne pas se toucher. Elles laissent une fente de timidité d'un mètre à peu près. Ouais. C'est très beau vu de dessous, parce qu'on voit le ciel. En fait, ces arbres, ils poussent l'un vers l'autre et ils s'arrêtent, alors qu'ils ne sont pas du tout au contact. Un truc tout à fait fascinant, c'est qu'ils ne s'arrêtent que si le voisin appartient à la même espèce. Ah. Ça veut dire que l'arbre, il sait si son voisin appartient à la même espèce que lui ou non. Si ce n'est pas la même espèce, ils vont mélanger leur
Mais ça, Francis Allais, c'est incroyable, parce que ça veut dire que les arbres ont une perception aiguë de ce qui les entoure. Mais avec quoi? Comment ils perçoivent le monde qui les entoure?
Mais ils le perçoivent parfaitement bien. Mais encore une fois, ça vient du problème de base. Être fixe et totalement comestible, ça suppose de mettre en œuvre des solutions d'une grande intelligence. Sinon, ils ne s'en sortent pas. D'ailleurs, il y en a certainement qui ont disparu, faute d'avoir trouvé ces bonnes solutions. L'intelligence des plantes, c'est plus étonnant en fait que l'intelligence animale ou humaine. Si vous êtes à côté d'un arbre, ouais, il sait que vous êtes là. Je ne dis pas qu'ils vous reconnaissent personnellement, ouais, mais une personne humaine à côté d'un arbre, ça correspond à une modification locale du flux lumineux, forcément, puisqu'on n'est pas transparent. Donc il sait qu'on est là.
Vous employez ce terme de « il sait ». Évidemment que l'arbre ne sait pas. Alors qu'est-ce que... En fait, on n'arrive pas tellement à dire les choses hein, avec les mots qu'on possède.
Non, c'est ça, on procède un langage qui est parfaitement adapté à l'être humain et à l'animal, mais très mal aux arbres. Ouais. Oui, je dis « il sait ben, ». Je veux bien mettre des guillemets autour du savoir, mais il ne faut pas non plus mettre trop de guillemets, parce que savoir, il n'y a pas de raison que ça soit le privilège exclusif de l'être humain. Ça serait affirmer ça, je ne le ferais pas. Non, mais vous savez, des mystères sur les arbres, les plantes en général, c'est énorme. On n'est pas assez de botanistes, il n'y a pas assez de gens qui se passionnent pour ces choses-là. Je vois que les gens se passionnent spontanément pour les animaux. C'est vrai que ça excite, enfin on tient à les voir, etc. Mais les animaux, ben, je les aime bien, mais ils sont sur le même créneau que nous. D'abord parce qu'on est des animaux nous-mêmes. Et puis enfin, ils ont besoin d'oxygène et ils rejettent du gaz carbonique. C'est pour ça qu'ils m'intéressent moins que les plantes. Parce que les plantes, c'est l'inverse de ce que nous faisons. Et donc c'est extrêmement précieux. La plupart des gens s'en foutent complètement. Enfin non, c'est un arbre, on le coupe, c'est tout. Ils n'ont pas réalisé que c'était notre vie, en fait.
Et ce mépris ou ce désintérêt des plantes et des arbres, il ne date pas d'hier, parce que votre ennemi personnel sujet, c'est Aristote.
Eh bien, oui, enfin, je pense que ça existait avant, mais Aristote, il a codifié ça. Ouais. Les plantes, ça ne parle pas, il a raison. Les plantes, ça ne marche pas, il a raison aussi. Mais là où il a tort, c'est d'en déduire que c'est une forme de vie inférieure et que les détruire, ça n'a aucune espèce d'importance. Et si on peut, en les détruisant, gagner sa vie et se faire fortune, il ne faut pas hésiter. Et je constate que la plupart de mes contemporains n'ont pas dépassé les idées d'Aristote.
D'ailleurs, l'ironie, c'est qu'on entend les tronçonneuses derrière nous au moment où vous me dites ça.
Pas de tronçonneuse du temps d'Aristote. Et puis la destruction de la végétation n'était pas encore un problème mondial comme c'est maintenant. On me demande souvent pourquoi les arbres ne se défendent pas contre l'être humain. Parce qu'ils se défendent contre plein d'organismes. Les virus, les bactéries, les champignons, et puis les insectes, etc. Et on me dit, mais son principal adversaire à l'arbre, c'est l'être humain. Or, il ne se défend pas. Très bonne question. Ma réponse, mais on ne saura jamais la réalité, c'est qu'on est trop récent. On est puissamment armé, très mobile, assez intelligent, il faut l'admettre. Enfin, encore que ça se discute. Mais on arrive juste, alors les arbres, ben, ils n'ont pas trouvé la solution. Ça va venir.
Vous êtes de leur côté, résolument de leur côté.
Complètement, complètement. Oui, non, mais attendez, un maire d'un village qui fait abattre un arbre pour faire passer un camion, je trouve ça d'une connerie, mais innommable. Et... quelqu'un a dit que c'est comme si on se chauffait avec les tableaux du Louvre. On les met dans leur poêle, ça va dégager un peu de chaleur. Voilà un bon moyen de se chauffer. Non, mais c'est ça, réellement ça.
Ah, il y a une petite mare avec des poissons, là. Petit bassin.
Tant qu'il y a les poissons, on est à l'abri des moustiques. Là, il y a un grenadier.
Petite fleur orange-rouge.
Oui, oui.
Et même des fruits, là, regardez, ça commence déjà un début de grenade.
Elle n'est pas encore pleinement grandie, mais les grenades, ici, c'est très important. Hein.
Le nom de la ville, ça vient du fruit?
Oui, absolument. Oui. Ouais. ça vient exactement de la couronne qui est dessous. Ça a inspiré les rois, ça. Ils se sont aperçus qu'ils avaient une grenade sur la tête.
Dit comme ça, c'est pas rassurant.
Non, mais il y a grenade et grenade. Celle-là, elle n'est pas dangereuse du tout.
On s'en rend compte, Francis Allais, en parcourant votre jardin. Cet arbre vient du Japon, cet arbre vient de Californie. Parcourir un jardin, c'est déjà faire un voyage.
Ça dépend quel jardin, mais enfin c'est vrai. Un jardin botanique, quel qu'il soit, où qu'il soit dans le monde, il y a forcément des arbres de plusieurs pays, c'est vrai.
Vous, évidemment, vous avez voyagé énormément, vous avez eu le virus très très tôt. Finalement, votre première forêt primaire, forêt tropicale dans laquelle vous vous rendez, c'était quand?
C'était 1963, à côté d'Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Il y avait une belle forêt qu'on appelait le Banco, qui était primaire. Encore maintenant, j'ai ces images dans l'œil.
Vous nous rappelez ce que c'est qu'une forêt primaire?
C'est une forêt où il n'y a pas d'action humaine visible. Il n'y a pas de trace de l'action humaine. Si elle n'est pas primaire, elle est secondaire. Et pour passer de secondaire à primaire, c'est très long. Voilà, ça se compte en siècles.
Et donc vous, votre découverte de votre première forêt primaire, c'est quelque chose qui vous a marqué?
Après cette visite du Banco, avec des très bons botanistes, j'étais tout jeune à l'époque, je n'ai plus jamais quitté les forêts primaires.
C'est quoi cette plante grimpante là qui fait un tunnel de végétation?
Ah, c'est très curieux. C'est un rosier. C'est la rose de Banks. Il n'y a pas du tout d'épines. Banks, c'était le botaniste qui a accompagné le capitaine Cook. Ah. Il a trouvé ça dans une escale en Asie. Ça se pousse très bien ici. Il y a pas mal de botanistes qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, notamment les grandes explorations autour du monde à l'époque de Banks et de Solander et de Captain Cook, ou de la Pérouse. La Pérouse lui-même, il n'est pas revenu, donc ouais. C'est un peu dangereux le terrain.
Ce terrain, il était dangereux, mais j'ai l'impression qu'il vous aurait passionné. Enfin, c'est difficile de dire ce qu'on aurait fait.
Mais moi, je serais parti.
Vous y serez allé.
Ah, mais sans aucun doute.
Malgré le scorbut, malgré tous les risques.
Rien à foutre. Ouais. Mais de toute façon, les risques, on les a ici aussi. C'est les bagnoles, c'est...
Ça ne m'étonne pas que vous soyez partant pour partir à l'aventure sur ces grands voiliers des siècles.
Non plus, j'aime beaucoup la voile. Alors
c'est ça.
J'aurais peut-être même pu donner un coup de main à la manœuvre.
Oui, c'est ça, vous aimez la voile. Vous avez été moniteur de voile au Glénan, étant jeune.
Oui, mais j'ai fait ça pendant longtemps. Et c'est un métier qui m'a pleinement convenu. Oui, c'était passionnant.
Un des grands explorateurs, c'est Darwin, sur son Beagle.
Il a fait le tour du monde à la voile.
Oui. Voilà.
Il a été malade comme un chien, le pauvre. Il n'était pas du tout fait pour la voile. Alors là, il a été malade. Et il arrive sur la côte du Brésil, la Mata Atlantica, la forêt littorale brésilienne. Alors là, je ne sais pas comment il a eu le courage de repartir, parce qu'il était tellement bien dans cette forêt.
29 février 1832. Quelle délicieuse journée. Mais le terme délicieux est bien trop faible pour exprimer les sentiments d'un naturaliste qui, pour la première fois, s'aventure dans une forêt brésilienne. L'élégance des herbes, la nouveauté des plantes parasites, la beauté des fleurs, le vert éblouissant du feuillage. Mais par-dessus tout, la vigueur et l'éclat général de la végétation me remplissent d'admiration. Quiconque aime l'histoire naturelle éprouve, en un jour comme celui-là, un plaisir, une joie plus intense qu'il ne peut en éprouver à nouveau.
Voici ce qu'il écrit, Darwin, le 29 février 1832, alors qu'il effectue son voyage autour du monde de 5 ans à bord du Beagle.
Première. Je crois que ce qui l'a le plus frappé, comme moi d'ailleurs, c'est le premier contact avec une forêt tropicale. C'est inoubliable, ça.
Et ce qui est fou, c'est que Darwin, on l'associe évidemment à l'évolution des espèces, on l'associe beaucoup au monde animal et très peu au monde végétal, mais finalement
ça,
il est...
C'est une grande injustice.
Oui.
Les collègues zoologistes, je les aime bien, je ne veux pas en dire du mal, mais ils ont mis la main sur Darwin en disant qu'il avait surtout travaillé sur l'animal. C'est faux. Oui. Il a surtout travaillé sur les plantes.
Vous êtes parti sur les traces de Darwin, vous êtes allé jusque, notamment aux Galapagos.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles ont les plantes des Galapagos?
C'est tout à fait étonnant. J'ai fait des cahiers de dessins sans arrêt.
Là, vos dessins, ils sont dans votre bureau.
Mon bureau, là.
Ouais. Ouais. On ira y jeter un œil après.
Oui,
ouais. Bon, super.
Il faut du temps. Hein,
parce que... Non, mais quelques heures, oui, j'imagine. Il y a tous ces carnets
de
voyages.
On peut aller voir les Galapagos. Bon, allons-y.
Allez. Oui.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Rien dans les manches, Darwin avait raison. Féloche est un poilu qui jette son dévolu sur la femme à deux têtes. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain, Darwin avait raison. J'ai quelque peu changé, changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Féloche a pris le zar. Darwin avait raison.
C'était Féloche qui chantait « Darwin avait raison ».
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé, sur France Inter.
Notre escapade avec le botaniste Francis Allais passe par son bureau, mais pas n'importe quel bureau. On y accède par un petit escalier, niché sous les toits, ce petit bureau, et vous allez le voir en réalité, l'antichambre de contrées lointaines. S'y dissimule une multitude de petites portes qui ouvrent directement sur les plus belles forêts du monde.
Ça, c'est mon bureau, voilà.
Quel endroit merveilleux, ce petit bureau avec cette fenêtre qui donne sur ce jardin.
J'ai toute ma documentation autour, mais on est très très bien ici.
Dans ce bureau, on trouve sur une étagère...
C'est mes carnets de terrain.
Tous vos carnets de terrain. C'est là où on voit le nombre de voyages et d'expéditions que vous avez faites, Francis Allais. Japon, Chine 1988, Sri Lanka 1987, Brésil, Pérou, Mexique, Thaïlande... Sumatra, Malaisie, Guyane, Java.
Qu'est-ce qui vous tente ?
Allez, allons faire un tour aux Galapagos.
C'est en même temps un carnet de dessin et un livre de bord. Ah, San Cristobal, là on y est. Nyctaginacée, la famille des bougainvilliers.
Avec des longues tiges, des petites feuilles, les fleurs aussi que vous avez représentées.
Ça ressemblait un peu à un bougainvillier d'ailleurs. Les cactus, effectivement. Il y a des forêts de cactus aux Galapagos.
Quelle est la force du dessin pour un botaniste, Francis Allais ?
Énorme. Mais pas seulement pour les botanistes. Je crois que ça ne disparaîtra jamais. Parce que une image qui a transité par le cerveau de l'auteur, je crois que c'est beaucoup plus puissant que clic avec un petit appareil photo. J'ai fait les deux, hein. J'ai des milliers de photos, mais... Un des gros défauts de la photo, c'est que ça ne sépare pas la plante qui vous intéresse de celles qui sont autour. Tandis que le dessin, je ne dessine que la plante qui m'intéresse, les autres.
C'est parfois en dessinant que vous avez compris l'organisation d'une plante ?
C'est-à-dire, le dessin, ça ne fait pas de cadeau. Si vous n'avez pas compris, vous ne pourrez pas dessiner. Ça ne se tiendra pas. Ouais. Alors, il faut du temps. Il faut tourner autour. Parfois, il faut grimper dans l'arbre, etc. Ouais.
Et ça, ce n'est pas pour vous déplaire ?
Ah, pas du tout. Moi, j'aime bien. Mais non, mais quand j'ai dessiné, c'est des petits dessins très simples, mais quand je l'ai fini, je pense avoir compris comment elle pousse.
Et dans quel état vous êtes quand vous dessinez ? Il faut être très concentré, une attention flottante.
Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de mon existence.
Ah oui ?
Oui. Ah, pour moi, c'est absolument extraordinaire. Alors, je dessine aussi des animaux. Hein.
Des iguanes, là, c'est ça ?
Des iguanes marins.
On le voit dans ces carnets et dans vos dessins. Certains ont même été exposés à la Fondation Cartier il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Vous avez un vrai talent pour dessiner. Mais vous ne vous considérez pas pour autant comme un artiste, Francis
Non,
Allais.
Surtout pas.
Pourquoi surtout pas.
Mais parce que je me renseigne sur ce qu'est un artiste. Il n'a aucune règle. L'artiste, par définition, il est libre de représenter ce qu'il veut, comme il veut. Donc il n'a pas de règle. Moi, ce n'est pas du tout le cas. J'ai une règle non formulée, non écrite, mais qui est extrêmement vigoureuse. Ça doit ressembler à ce que je dessine. Alors on me dit, mais si, c'est beau, donc tu dois être un artiste. Je dis, mais c'est beau parce que c'est beau.
Parce que la nature est belle, parce que les plantes sont belles.
Elle est infiniment plus belle que ce que je peux faire. Mais si mon dessin était moche, c'est qu'il serait raté, puisque la plante était belle.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, je ne suis pas artiste.
Ça fait voyager, chaque page du carnet de voyage fait voyager. Alors, si on en prenait comme ça, là, sur cette étagère, si on picorait parmi les merveilles, les curiosités que vous avez pu observer, par exemple, en Chine, vous avez rencontré une plante qui danse.
Oui, c'est vrai. Je rentre dans ce grand jardin botanique à Xishuangbanna et le patron me dit « Connaissez-vous la plante qui danse ?» Je lui ai dit « Non, mais il va falloir me la montrer vite fait. » Il y avait des jolies fleurs roses, et puis au pied, il y avait des Chinois qui tapaient dans les mains comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ben, il me dit, ils la font danser. Si on veut qu'elle danse, il faut bien faire un peu de musique.
Alors, elle se comportait comment, cette plante, au son des applaudissements ?
Vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Elle a trois folioles comme ça, et les deux latérales bougent. Très mystérieux, d'ailleurs. Enfin, ça nous plonge dans des abîmes de réflexion, ce truc. Parce que cette plante, elle est plus comestible que les autres. C'est une famille qui est riche en azote. Donc, c'est particulièrement recherché par les herbivores.
Oui.
Moi, je serais elle, je ne bougerais pas. Mais enfin...
Et puis, ça pose la question, comment elle fait pour entendre le bruit ?
On ne sait pas comment elle fait pour entendre le bruit. Et surtout, on ne sait pas à quoi ça lui sert. Mais enfin, cette plante-là, elle danse effectivement.
En Tasmanie, si pareil, on continue de feuilleter vos carnets, en Tasmanie, on va tomber sur un arbre kakoshim extrêmement vieux.
Ah, effectivement, c'était à l'époque l'arbre le plus vieux du monde, 43 000 ans. Mais depuis, ça a été dépassé. On en est à 80 000 maintenant.
Il est où, celui qui fait 80 000 ans ?
Il est aux États-Unis.
Non, mais il faut se rendre compte. Alors déjà, rien qu'en celui qui a 43 000 ans en Tasmanie, déjà 43 000 ans, mais c'est vertigineux.
C'est extraordinaire,
Si on regarde l'âge de la grotte Chauvet, c'est un peu plus de 30 000 ans, mais on est avec 43 000 ans, on remonte encore 10 000 ans en arrière.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une espèce humaine comme maintenant, il y en avait deux. Il y avait l'homme de Néandertal et puis nous.
Ouais.
Oui, c'est très étonnant, la longévité des plantes. On n'est pas habitué à ça. Hein. Les animaux sont jamais, jamais aussi longévifs. Et le chêne qui est là.
Oui, par la fenêtre, on voit les branches d'un chêne majestueux, centenaire.
Ah, oui, ça m'inspire beaucoup d'avoir ça.
Oui.
Eh bien, si on ne le taille pas du tout, les branches maîtresses, elles vont devenir de plus en plus grandes, et puis la pesanteur va les rabattre, et si on n'y touche pas, elles vont toucher le sol. Et là, elles s'enracinent, et elles redonnent une couronne de petits chênes.
Ah.
Alors, vous voyez bien que c'est immortel. C'est-à-dire, tant qu'il aura de la place, tant qu'on lui fiche la paix et qu'on ne le coupe pas, il n'y a aucune raison de s'arrêter.
Si je vous suis bien, l'arbre de Tasmanie de 43
pareil,
000 ans,
c'est pareil.
Il s'est replanté, oui. Il a replanté ses propres branches et les troncs que l'on voit, ils n'ont pas 43 000 ans en fait.
C'est... Non, le tronc initial sorti de la graine, il est mort depuis longtemps. C'est fini, mais le clone n'arrête pas de pousser. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un arbre ? Ça discute. En tout cas, c'est sorti d'une graine, ça
ouais.
C'est clair.
On peut redescendre pour aller parler du radeau des cimes un peu
bien,
sur la terrasse.
Ça me...
chez vous, Francis Allais, c'est encore un peu la jungle. Hein. Là, il y a une que de plantes. Évidemment, les plantes tropicales, c'est aussi les plantes d'intérieur.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Ravi de faire votre connaissance, Odile.
C'est bien, on s'assoit. On...
Vous êtes l'épouse de Francis.
Bah oui. Oui. Ça fait 60 ans.
Ça fait 60 ans que ça dure. Et vous avez beaucoup voyagé à ses côtés.
Ah oui, pas mal. Oui, oui. Ouais. En famille aussi et tout.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que Francis disait, pour des raisons de recherche, je suis nommé à tel endroit, dans telle faculté, à l'autre bout du monde, vous étiez partante, Odile Allais.
Ah oui, ça ne m'a jamais posé de problème. Ouais. Et que même au moment de départ... Comme on ne voulait pas mettre une espèce d'impression de bagages à faire, des caisses et tout ça, on ne faisait rien du tout jusqu'à la veille du départ et on faisait tout la nuit avant le départ.
Ah, vous n'êtes pas une stressée du voyage
hein? Ah non, pas du tout.
Ouais. Ah oui.
Pas du tout.
Et pour les enfants, c'était un bonheur ?
Les enfants, ils avaient l'habitude de changer d'un pays sur l'autre. Et quand il a fallu rentrer en Europe pour leur scolarité, on s'est retrouvés à Montpellier, enfin dans la banlieue de Montpellier, ils ont cru que c'était un autre pays, quoi. Et puis, je me rappelle une soirée d'hiver où il tombait un mélange de glace fondue et de pluie. Il faisait noir, il faisait froid, on était tous recroquevillés dans la cuisine. Et ils nous ont dit, mais on ne va pas passer notre vie dans ce pays-là. Ils n'avaient pas du tout compris que c'était leur pays, ça ne leur disait rien du tout. Alors il se trouve que je venais d'apprendre l'existence d'un poste qui me convenait très bien à Java, Indonésie. Et donc, j'ai posé ma candidature dès le lendemain et on est parti assez vite après.
C'était assez drôle parce que d'abord, Cécile a commencé par dire ça d'une toute petite voix en disant « j'ai ce poste, mais bon, il n'y a pas d'école quand même, il n'y avait pas d'école, c'était quand même un petit peu ennuyeux. » Et alors, je dis « c'est pas grave, on va partir, on va s'inscrire au cours par correspondance. » Et je me rappelle, je leur ai dit, mais vous me voyez vous dire le matin, allez, il faut se mettre au boulot, là, tous les matins. Ils nous ont dit, oui, on le fait. Et ils l'ont fait.
Ça n'a jamais posé de problème.
Pas des passionnés de l'école.
Tous les enfants auraient fait pareil. Si on leur dit qu'il n'y a pas d'école,
c'est vrai.
C'est une raison supplémentaire de partir le plus vite possible. Ouais. Ça, c'est clair. Je me mets très bien à leur place.
Est-ce que dans votre entourage, ou la voix de la raison, des médecins ont pu vous dire parfois... mais c'est dangereux pour des enfants en bas âge de parcourir le monde, de vivre en forêt tropicale.
Non, on n'a pas pu tenir ce langage-là parce que je savais que c'était faux. Chez moi, et d'ailleurs chez Odile aussi, le voyage c'était une espèce de tradition familiale. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas voyager.
En plus, on a demandé son avis à personne. C'est surtout ça, on a fait ce qu'on voulait, comme d'habitude.
Chérie, je reviens.
C'était une longue journée de travail chantée par Suzanne Bellobre et Gatien sur France Inter. Suite de notre escapade avec le botaniste Francis Allais, spécialiste des grands arbres et des forêts tropicales. Il a passé sa vie à les explorer en tous sens et il est le premier à avoir eu l'idée d'aller marcher sur la cime des arbres pour étudier la canopée.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter.
Francis Allais, on est sur votre terrasse un peu à hauteur de cime, en tout cas, on est presque dans le feuillage. C'est l'endroit idéal pour parler de ce radeau des cimes. Ça, c'est une des aventures incroyables de votre vie. Vous êtes l'un des co-inventeurs du radeau des cimes. Vous nous racontez comment, déjà, l'idée, ne serait-ce que l'idée, est venue ?
Volontiers. Je suis à la recherche des endroits où il y a le plus de biodiversité. Or, depuis quelques années, 1982, voilà, changez la date, un jeune collègue nord-américain, Terry Irwin, il évalue la biodiversité des insectes dans une canopée tropicale. La méthode n'était pas très élégante, c'était de projeter du gaz toxique depuis le sol. Mais bon, à l'époque, on ne pouvait pas faire mieux, on ne peut pas lui en vouloir.
Il zigouillait tout le monde, il regardait ce qui retombe et il comptait les espèces.
Oui, mais l'ennui, c'est qu'il y en a beaucoup d'insectes qui meurent mais qui ne tombent pas, s'accrochent. Enfin bref, cette année-là, ça n'a pas fait assez de bruit à mon avis. On est passé de 3 millions à 30 millions d'insectes sur la planète. Mais alors moi j'avais noté qu'il n'était pas monté et que le nombre d'insectes qu'il a trouvé, c'était inférieur à la réalité. Donc c'était gravement insuffisant. Donc moi ça m'a donné furieuse envie de monter là-haut.
C'est comme ça donc qu'est née cette idée d'un radeau qu'il faut imaginer, donc avec une structure faite de boudins gonflables reliés par des filets et que l'on transporte grâce à un dirigeable.
Grâce à un dirigeable, et puis une fois qu'il est posé, on largue les amarres et on n'a plus besoin du dirigeable du tout.
Alors, ça a fasciné les journalistes. Il y a plein d'archives où on vous entend, on vous voit atterrir sur la canopée.
Oh, il fait chaud là-haut. Ah, tu sens tout de suite la chaleur.
Vous êtes avec Antoine de Maximi à l'époque, qui vous accompagne sur ce radeau.
Ça va ? Bon, il est quand même très stable.
Ouais, il est bien là.
Là, a priori, il repose sur combien d'arbres ?
Bah écoute, je viens de m'apercevoir qu'il y a un bélis, ça fait 6 arbres. 6 arbres, essentiellement un gros dialium qui fait cette bosse là, la diptérocarpe qui est derrière, l'arbre à chocolat d'Afrique qui est là, et l'autre arbre à chocolat d'Afrique qui est là. Plus deux petits qui sont dessous. Voilà, on arrive à 6.
Ça va, c'est suffisant. Hop. Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est un radeau d'eau.
C'est un radeau d'eau, c'est-à-dire ?
Ben, c'est pour faire dodo sur le radeau. Mais c'est un lit très confortable. Ça a été inauguré par les virologues de l'Institut Pasteur et je crois qu'ils ont très bien dormi. Tu passes la nuit là et le matin, t'as pas la fatigue de monter, donc tu te réveilles, c'est absolument somptueux.
Ça vous replonge dans l'ambiance ?
C'est très drôle, c'est très amusant, j'avais jamais entendu ça.
On voit que vous êtes quand même bien assuré, hein, que Francis Allais, vous avez des...
Toujours assuré, mais c'est comme sur un bateau en haute mer. Ouais.
Vous avez passé des bivouacs sur la canopée, vous avez dormi là-haut.
Mais pendant 30 ans, on le faisait régulièrement.
Racontez-nous une nuit à la Belle Étoile.
Dès que le soleil tombe un peu, avant même qu'il fasse nuit, il y a un énorme concert qui se déclenche. Très étonnant. Quand on est au sol, on l'entend ce concert, mais c'est au-dessus de nous. Tandis que là, on est assis sur les baffles. Donc on perd rien. Et c'est amusant de voir les groupes zoologiques qui interviennent. Les premiers qui s'y mettent, dès que le soleil tombe un peu, c'est des grenouilles, des batraciens. Non, ce n'est pas vraiment des grenouilles, c'est des rainettes arboricoles. C'est petit, vert, et ça grimpe dans les arbres. Et alors vous avez un concert incroyable. Bon, à mesure que la nuit s'avance, il y a des quantités de cris que moi je n'arrive pas à identifier, c'est pas mon boulot. Mais les zoologistes arrivaient à dire ça c'est un oiseau, ça c'est un singe, ça c'est un daman, un animal nocturne, etc. Et puis vers la fin de la nuit, il y a de plus en plus d'oiseaux et le reste s'éteint un peu. Avant même que le jour se lève, il y a un extraordinaire concert d'oiseaux. Les Anglais ils appellent ça Dawn Chorus, le cœur de l'aube. Le fond sonore de la forêt la nuit, c'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. La nuit, il y a les odeurs des fleurs. Il faut vous dire que tous les arbres et toutes les lianes sont en fleurs dans la canopée. Dans le sous-bois, il y a très peu de fleurs. Et pourquoi elles fleurissent la nuit ? tout simplement parce que leurs pollinisateurs sont nocturnes. Ce n'est pas la peine de répandre des parfums délicieux quand il n'y a pas de pollinisateurs. Et la nuit, c'est étonnant parce que nous, on dort là-haut et on a un mélange mais inextricable de centaines d'espèces de parfums venant de plantes différentes.
Vous en parlez avec des étoiles dans les yeux, ça donne tellement envie, on aurait aimé être avec vous.
Ah, mais c'est pour ça qu'il faut continuer, vous voyez, ouais. ce travail. Parce que ce qu'on a fait, nous, c'est presque rien par rapport à tout ce qu'il y a sur les canopées tropicales.
Là, les lianes, c'est très facile. Mais quand on va chercher des arbres bien, bien spécifiques ou des fleurs, il y a toujours un botaniste derrière, avec des jumelles pour observer, pour ne pas qu'on perde trop de temps.
Mettez du poids dessus, là, du poids, du monde. Francis, sur la luge.
Ouais, l'objectif est à 9h, 100 mètres. Bon, on est un peu en dérive, donc ça va secouer un petit peu. Hein.
Francis Allais, vous n'êtes pas un aventurier, vous êtes avant tout un chercheur. Malgré tout ce que vous avez fait aux quatre coins du monde, perché en haut des arbres, vous n'êtes pas un aventurier.
J'aime pas les aventuriers, je les déteste.
Ah oui.
Parce que j'en rencontre, moi, au bistrot, dans les villes où je vais.
Ouais.
Ils sont généralement au bistrot, les aventuriers. Enfin, ils payent péror, comme ça, ils racontent des trucs. Non, les aventures, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le réel, voilà. Et notamment le vivant.
Parmi vos voyages dans ces pays, il y a quelques arbres qui vous ont marqué. L'arbre qui pleut ou qui pleure, vous l'avez rencontré où ?
Ça, c'est aux Canaries. Il y a une île qui s'appelle Hierro, le fer. C'est une île où il ne pleut pas. Par contre, il pousse un arbre qu'on appelle le garroé. Et cet arbre, il tire son eau des nuages. L'eau se dépose sur ses feuilles au point que sous cet arbre-là, je ne blague pas, il pleut sans arrêt. C'est pour ça qu'ils l'appellent l'arbre à pluie. D'ailleurs, il pleut tellement qu'ils ont fait un petit sol en béton autour du pied de l'arbre et une rigole qui va jusqu'au village. Et ça leur fait une fontaine dans le village.
Oui, c'est un collecteur d'eau, l'arbre, pour le village.
Oui, et ça marche.
Au Chili, vous avez rencontré les lianes intelligentes.
Au centre du Chili, une liane qui s'appelle Bokila trifoliolata, elle grimpe sur un arbre et ses feuilles se modifient pour prendre la forme des feuilles de l'arbre sur lequel elle grimpe. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chiliens ? Ils l'ont déroulé très gentiment, puis ils l'ont fait grimper sur un autre arbre avec des feuilles encore différentes et elle change encore une fois de forme de feuille. Ils l'ont fait jusqu'à 5 arbres différents. Donc cette plante, elle adapte ses feuilles aux feuilles de l'arbre sur lequel elle grimpe. C'est du camouflage. Mais on ne sait pas comment ça marche.
C'est complètement mystérieux, en tout cas.
C'est totalement mystérieux. Parce que pour que la liane copie l'arbre, il faut qu'il y ait un transfert d'informations.
Oui.
Ça peut être passé par des gaz. On a l'habitude de ça, de plantes qui discutent comme ça, avec des échanges gazeux.
Mais pour le moment, c'est quand même bien mystérieux.
C'est pour ça que je rêverais d'avoir un lot de graines de ces petites plantes-là et les étudier ici.
On va se promener sur les rives du Lez, Francis Allais.
On va manger un petit quelque chose avant, non ?
Oui.
Et après, on y va.
Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema, 100 personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda, por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda, por mí. Morirías por mí, escribiría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino, pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos, pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas, el mercado pide más. Prefiero un ataúd, cenizas en el mar, que correr mucho y olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí, moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda por mí. Morirías por mí, escribiría toda esta mierda.
C'était Setangana qui chantait Estrecho Alvarado et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter.
Pour notre escapade, Francis Allais, spécialiste des grands arbres, n'allait pas nous laisser repartir sans nous emmener faire un tour dans une forêt qu'il aime bien, pas très loin de Montpellier, l'endroit idéal pour nous parler d'un projet qui lui tient énormément à cœur, recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest.
Il y a un bruit de forêt là, hein,
ouais, c'est bien. Là on y est bien. Francis Allais, on arrive où là alors exactement?
Là, on arrive sur la rive du Lez, qui est notre petit fleuve local, et ce qu'on va visiter, c'est la forêt des rives du Lez.
Quand vous dites petit fleuve local, c'est effectivement un petit cours d'eau, mais il se jette directement dans la Méditerranée après...
Je n'hésite pas à utiliser le terme de fleuve.
Eh oui. La France a plus de fleuves qu'il n'y paraît. Ah oui, on le voit.
Il est tout petit, hein.
Ah, il n'est pas si ridicule, ce Lez, là. Non. Avec des nénuphars, hein, il y a de la végétation aquatique.
Je crois qu'il a été augmenté avec un canal qui venait du Rhône.
C'est-à-dire que c'est l'inverse d'un affluent, c'est le Rhône qui vient un peu alimenter le Lez.
Il y a quelques beaux arbres, essayez de les trouver.
On sent la fraîcheur de la forêt.
Ah oui,
c'est
bien.
Un jour un peu chaud, mais tout de suite là, ça...
Et voilà. Les cyprès chauves.
Les cyprès chauves.
C'est un arbre qui vient de Floride.
Ils ont un tronc... Très fin, qui monte droit vers le ciel.
Magnifique. Hein. Mais bizarrement, il est beaucoup plus beau ici qu'en Floride.
Ah oui, il se plaît mieux ici.
Ah ben oui. Je crois que tout simplement, on a amené l'arbre, mais on n'a pas amené ses parasites.
Ouais.
Donc il est extrêmement content. Je ne sais pas qui a planté ça, mais c'est un vrai succès. Ça.
Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Il étudiait déjà, d'ailleurs, la reproduction des hêtres. Il pensait également à des bouleaux. Pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol.
Un auteur que vous aimez bien, Giono, qui a écrit « L'homme qui plantait des arbres », il en fait son passe-temps, son combat, sa vie. C'est quelque chose que vous auriez pu faire, planter des arbres.
Certainement. J'aime pas ce titre, d'ailleurs, l'homme qui plantait des arbres, parce qu'il ne les plantait pas, il les semait.
C'est vrai.
C'est beaucoup plus astucieux. Si on plante un arbre, c'est-à-dire on utilise un plant qui a déjà 1 mètre de haut, ses racines sont coupées. Eh bien, des racines coupées, ça va le handicaper pendant toute sa vie. Tandis que si on sème une graine, évidemment, sur le plan politique, ça vaut rien parce qu'une graine semée, on ne voit rien.
Eh oui.
Mais si on met côte à côte un plant et une graine de la même espèce, et si on revient 4 ou 5 ans après, la plante semée sera beaucoup plus grande que la plante plantée. Où sont les plus beaux arbres qu'on puisse voir? C'est en forêt.
Là où ils se sont plantés tout seuls.
Ils se sont semés tout seuls.
Oui. Sont
oui. Et c'est là qu'ils sont les plus beaux. Ah, c'est bien, je suis content d'être là.
Tiens, celui-là, il a l'air gigantesque, ce tronc-là, là, ce platane-ci.
C'est vrai, hein. Ça, c'est un gros arbre. Hein. Mais en une journée dans une forêt tropicale, on en rencontre au moins une cinquantaine des comme ça. C'est normal comme dimension.
On les laisse un peu tranquilles.
Ah mais il suffit de leur foutre la paix. C'est ce qu'on peut faire de plus utile. Ne rien faire. Mais ça a l'air idiot, mais pour beaucoup de nos contemporains, ne rien faire, c'est presque impossible.
Ouais.
Quand est-ce que l'être humain arrêtera de se considérer comme responsable de la nature? Nous sommes persuadés que nous la connaissons mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Très curieux, hein.
Francis Allais, je voudrais que vous me parliez de votre projet du moment. Ça fait plusieurs années que vous êtes dessus. Vous voulez laisser pousser une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune forêt primaire, donc des forêts qui ont minimum 700 ans, dans lesquelles les humains n'interviennent plus. Il n'y en a plus en Europe de l'Ouest, et vous voudriez qu'il y en ait une.
Alors, ce qu'on a, c'est des forêts secondaires, c'est-à-dire qu'elles ont été exploitées et que la faune a été chassée, donc ce n'est pas des forêts complètes. Alors, on peut très bien espérer qu'une forêt secondaire va redevenir primaire à condition de lui foutre la paix. Voilà.
Donc c'est ça l'idée. Le projet, c'est foutre la paix à une forêt. Ouais. Elle se situerait où, en fait, cette forêt primaire que
Alors,
vous...
le lieu précis n'est pas encore choisi, mais ce que nous savons, c'est que ça va être transfrontalier entre la France et un pays voisin, parce que c'est un projet européen.
Ouais.
Et on sait aussi la surface, 70 000 hectares. Alors certains me disent, mais c'est gigantesque. C'est pas vrai. 70 000 hectares, c'est un carré de 26 km de côté. C'est-à-dire, vous en faites le tour, ça fait 100 km. Pas dire que c'est gigantesque. Ce que ça veut dire, simplement, c'est que ce qu'on consacrait à l'écologie jusqu'à présent, c'était beaucoup trop petit. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Mmh. Voilà.
Mais alors, cette forêt, elle serait à cheval sur deux pays, peut-être la France, l'Allemagne, peut-être la France, la Belgique.
Ou la France, la Belgique, avec les Ardennes, ou... France-Allemagne, ça me plairait bien, entre les Vosges et la Rhénanie-Palatinat. Et aussi bien du côté belge que du côté allemand, ça les intéresse beaucoup.
Elle pousserait sur des terrains qui ne sont pas privés?
Des terrains communaux ou domaniaux. C'est-à-dire que ça appartient soit aux communes, soit à l'État.
Et cette forêt, alors pour le moment, c'est qu'un projet, hein. C'est pas encore en place, mais si ça voyait le jour, on n'aurait plus le droit d'y aller du tout. Comment ça se passerait,
non,
en
non,
fait
non, cette... non, c'est pas du tout une mise sous cloche ou une sanctuarisation. Je lis ça parfois dans des journaux qui ne sont pas bien au courant. Non, non, les visiteurs... Nous, on fait ça pour nos contemporains.
Ouais.
Et surtout pour les suivants. On veut faire un patrimoine meilleur que ce qu'on a trouvé nous-mêmes. Eh bien, non, les visiteurs seront tout à fait les bienvenus. Simplement, il ne faudra pas marcher sur le sol, parce que le sol des forêts primaires, c'est très souple. Donc, on risque de détruire les racines. On circulera sur des petits caillebotiers en bois, mais ça, n'importe quel parc national, que ce soit aux États-Unis ou en Australie, on ne circule pas sur le sol, on circule sur des petits caillebotiers en bois. Mmh. Voilà, les visiteurs seront les bienvenus. Et quant aux scientifiques, ils sont particulièrement excités qu'on va pouvoir étudier la transformation de la forêt secondaire en forêt primaire. Mmh. On a déjà des tas d'inscrits parmi les scientifiques.
Elle sera habitée de gros animaux, cette forêt ?
Mais dans une forêt, il y a forcément la faune. Et si on est en Europe, il y a la grande faune de la forêt primaire d'Europe. C'est-à-dire des quantités d'ongulés, des daims, des cerfs, des biches, etc. Des sangliers, des loups, des ours, des élans, et puis des bisons. Des bisons d'Europe. Magnifique animal.
Mais alors, les bisons et les ours, ils ne viendront pas tout seuls. C'est-à-dire que vous les réintroduisez dans votre forêt primaire.
Alors, il va falloir se les procurer. Les ours, je crois que c'est pas très compliqué, puisqu'on en a introduit dans les Pyrénées il n'y a pas longtemps. Quant aux bisons, il y a un animal magnifique que j'aime beaucoup. Il y a des élevages de bisons dans le Massif central. Donc, le jour où on veut des bisons, pas compliqué.
C'est marrant parce que vous en parlez vraiment au futur, comme si ça allait se faire. Aujourd'hui, c'est un projet, vous avez une association très active, vous voyez régulièrement des politiques au plus haut sommet de l'État pour défendre ce projet. On en est où, vraiment ?
Attendez, ça va rester l'utopie pendant très longtemps. Parce que même quand on aura notre parcelle, personne ne peut dire ce que sera l'Europe dans 5 siècles. Qu'est-ce que sera le climat ? Qu'est-ce que sera la France dans 5 siècles ?
D'accord.
Alors, effectivement, pour l'instant, il n'y a rien. Mais enfin, les tractations, les négociations avancent et localement, il se révèle des contradicteurs, mais qu'on va pouvoir dédommager, coupeurs de bois par exemple.
Ouais.
Et puis aussi, on trouve beaucoup de gens qui sont très désireux d'avoir ça chez eux. Ce serait une fierté pour eux d'avoir la forêt primaire européenne en train de renaître à proximité de chez eux.
On peut dire votre âge, Francis Allais ?
85, pas de problème.
Ouais. Ouais. À 85 ans, avoir un projet sur un si long terme et un combat encore incertain, c'est ce qui vous fait tenir parce que vous êtes en pleine forme. Là, je le vois depuis
que je suis... Attendez, je me dis souvent ça. Si j'avais 30 ou 40 ans, je ne serais pas crédible. Voilà, tandis que moi, j'ai passé ma vie dans les forêts primaires en tant que chercheur.
Et à mon âge, je ne vais pas raconter des blagues. On a besoin d'un truc comme ça. Je voudrais d'ailleurs faire valoir que ça remplirait des exigences écologiques qui ont été formulées à la fois par le gouvernement français et par l'Europe. Voilà, ça, ouais. Dans le fond, ça permet à ces gouvernements de tenir leurs propres promesses.
Vous êtes confiant à quel point ça pourrait commencer quand ?
J'aimerais que ça ait lieu cette année.
C'est une utopie ou pas ?
C'en est une, bien entendu. Mais attendez, moi je ne fais rien sans utopie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant si on n'a pas une utopie dans la tête ? On ne fait rien, voilà, on est sur place. Mais Théodore Monod en parlait très bien de l'utopie. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui ne se fera pas, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Le projet, il est prêt. Hein. Il manque juste un endroit pour le faire atterrir, mais il est prêt. On est tous prêts.
Ouais. Si on veut vous soutenir, Francis Allais, il y a votre association. De quelle manière on peut vous soutenir ou vous aider dans ce projet ?
Alors, en s'inscrivant. C'est même plus important que de nous faire des dons. Parce qu'en fait, on ne manque pas d'argent. On est soutenu par beaucoup de fondations et d'associations. Et donc, ce n'est pas le problème, ça. Par contre, le nombre de membres de l'association, ça, c'est essentiel. Parce que quand on aborde le politique, c'est ça qui va compter.
Elle s'appelle comment, cette association ?
Association Francis Allais pour la forêt primaire. Ça m'embête un peu que ça porte mon nom, parce que moi, je ne vais pas les emmerder longtemps. Hein. Enfin bon, c'est comme ça.
Oui, c'est comme ça. Et on espère bien continuer à vous entendre encore très longtemps, cher Francis Allais. Amis auditrices et amis auditeurs, si vous souhaitez soutenir le projet de Francis Allais, nous avons mis sur la page du Temps d'un Bivouac un lien vers son association Francis Allais pour la forêt primaire. Pour prolonger cette émission, je vous conseille aussi le très joli livre de Laure Dominique Agnel, intitulé « Francis Allais, les vies heureuses du botaniste », une biographie parue récemment aux éditions Actes Sud. Et je signale aussi le livre « Le Radeau des Cimes », signé Francis Allais, également chez Actes Sud. Toutes les références sont bien sûr sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Un grand merci à Paul Laporte qui a réalisé cette émission et à Emmanuel Fournier qui m'a aidé à la préparer. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes sur l'appli Radio France. Un immense merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur franceinter.fr, nos pages Facebook et Instagram depuis le début de l'été. Votre enthousiasme nous va droit au cœur. Très bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures.